Savez-vous qu'un Hérode peut en cacher un autre? Il y a bien sûr cet Hérode dont Matthieu nous parle au chapitre 2 de son évangile, qui est aussi surnommé Hérode le Grand. D'origine étrangère, il s'était allié à la célèbre famille juive des Maccabées, et ce n'est que par son habileté politique que lui, l'étranger, obtint des Romains le trône de Judée. Tyran cruel et ambitieux, il n'a pas hésité à faire mourir tous ceux qui lui portaient ombrage. Dès lors, pour rendre son règne tolérable aux Juifs qui, évidemment, le haïssaient, il fit restaurer avec grandeur le temple de Jérusalem. Et puis, il y a bien sûr cet autre Hérode, mentionné ailleurs dans les évangiles, un fils d'Hérode le Grand, qui deviendra plus tard tétrarque de la Galilée. Il fit décapiter Jean-Baptiste et régna jusqu'après la mort de Jésus. Et derrière, on peut évidemment y voir la figure encore plus terrifiante et redoutable de l'ennemi de Dieu. De fait, aujourd'hui, le Seigneur a mis trois choses sur mon cœur que je vais partager avec vous. La première, c'est que, peut-être plus que jamais ces derniers temps, nous sommes engagés dans un combat entre la lumière et les ténèbres. La deuxième, c'est le constat qu'à chaque fois que la lumière vient percer notre obscurité, l'ennemi fait tout pour se dresser contre l'œuvre de Dieu. Et enfin, la troisième, c'est la promesse que Dieu nous fait que ceux qui sont véritablement attachés à Jésus-Christ triompheront du mal et des ténèbres. Je reprends. On sait que les chrétiens d'origine juive étaient probablement majoritaires dans la communauté chrétienne à laquelle l'évangile de Matthieu s'est d'abord adressé. Mais dans cette communauté, on trouvait aussi un groupe significatif de chrétiens d'origine païenne. Alors, le récit des mages, en Matthieu chapitre 2, je vous invite à le relire, vient consolider la place des chrétiens d'origine païenne. Les mages eux-mêmes, en quelque sorte, anticipant leur venue à la foi chrétienne. Petite précision en passant. Bethléem en Judée nous est bien connu à cause de David, lui qui a reçu l'onction royale des mains du prophète Samuel. On peut lire son histoire dans le premier livre des Rois. Plus tard, Bethléem sera détruit par les Assyriens. Mais le prophète Michée redonnera espoir en annonçant qu'un jour, de Bethléem, sortira un rejeton pour être prince d'Israël. C'est au chapitre 5 de Michée, le verset premier. Raison pour laquelle Bethléem a été considéré comme le lieu où devait naître le Messie. Et c'est ce que nous confirme Matthieu, qui nous dit qu'Hérode se mit à s'informer où devait naître le Messie. On lui répondit « à Bethléem en Judée ». Et l'évangile de Jean, au chapitre 7, l'attestera aussi. Je cite « L'Écriture n'a-t-elle pas dit que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David, que doit venir le Christ ?» Bref, mes amis, le Messie, Christ en grec, tout attendu était donc arrivé. Une étoile apparue dans le ciel avait même annoncé sa naissance et la suivant des savants étrangers, des mages, étaient venus de loin pour le saluer, lui, le roi nouveau-né. Mais alors qu'il l'avait signalé, les gens qui connaissaient les Écritures à Jérusalem n'ont pas pris la peine d'aller à Bethléem pour voir ce que Dieu avait fait. Des bergers, des petites gens et les mages donc vinrent le voir, cet enfant nouveau-né. et les anges étaient là, nous dit le texte. Mais les religieux n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui savent ce qu'enseigne la Bible, ce qu'ils devraient faire. Ils savent qu'ils devraient s'approcher de Jésus, changer de vie. Ils savent qui est Jésus même. Ils savent qu'ils devraient se tourner vers lui, mais ils ne veulent pas que leur vie change. Ils ne veulent pas et ils résistent à son appel. Sommes-nous de ceux-là? Et que Dieu dit maintenant à ton cœur? Quant à Hérode, le roi donc en place à Jérusalem, il était troublé, lui qui n'était même pas juif et encore moins de sang royal. Et voilà donc qu'il entend parler de celui qui est descendant du roi David, l'héritier légitime du trône, celui donc que les Écritures avaient indiqué. Or, si Hérode était troublé et plein de haine, il feignit d'être heureux de cette nouvelle. Cela rappelé, il est bon de préciser que les récits de l'enfance, chez Matthieu, comme dans l'évangile de Luc, sont d'abord à lire, non comme une biographie de Jésus, au sens moderne du terme, mais surtout comme un récit théologique, parce qu'ils affirment avant tout que Jésus est ce Messie, loin, que le Seigneur avait promis à son peuple. Et puis à notre intention également, qu'il y a en fait plusieurs voies pour cheminer vers Jésus, plusieurs chemins pour devenir chrétien. Et précisément le récit de Matthieu nous rapporte que ceux qui connaissent la Bible et les prophéties de l'Ancien Testament ne se sont pas ouverts à la bonne nouvelle, mais qu'ils sont même devenus ses adversaires. Cela sans doute a marqué les chrétiens d'origine juive, chrétiens des premières communautés auxquelles l'évangile de Matthieu s'adresse en priorité. Si même l'enfant Jésus, le sauveur et roi, a été rejeté dès sa naissance par les religieux de son propre peuple, on pourrait légitimement y voir comme un reflet anticipé de la situation que les convertis traversaient, eux qui venaient d'être exclus des synagogues par leurs confrères juifs. Bien entendu, les récits de l'enfance de Jésus, par leur message, hier comme aujourd'hui, s'adressent tout autant, on le sait, aux chrétiens d'origine juive que non juive. Le début de l'évangile de Matthieu justifie en effet d'une part sa messianité par sa naissance à Bethléem, comme le roi David, et d'où viendrait le Messie selon la prophétie prononcée par Michée. Et puis d'autre part, cette présence effective des chrétiens d'origine païenne désormais dans l'Église manifeste bien la réalisation universaliste de ce qu'avaient annoncé les prophètes d'autrefois pour la fin des temps. L'Évangile est pour tous. Cela dit, j'y reviens, avec la naissance de Jésus, nous assistons à un épisode décisif de ce combat, plusieurs fois millénaire, de la lumière contre les ténèbres. Commencez déjà, souvenez-vous, dans le jardin d'Éden. Et la Bible tout entière, de la première à sa dernière page, témoigne des drames et des péripéties de ce combat terrible qui continue encore de se dérouler dans nos vies et dans le monde. Évoquant sans nul doute la venue du Messie, Ésaïe au chapitre 9 en avait prophétisé la naissance. Je le cite. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Une prophétie qui sera reprise par Matthieu d'ailleurs au chapitre 4. « Ce peuple, écrit-il, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Lumière, dans un monde obscur. Mais hélas, le précisera plus tard le prologue de l'évangile de Jean, je cite, « Si la lumière avec Jésus a brillé dans l'obscurité, l'obscurité ne l'a pas reçue. Cette lumière était la seule véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui est la parole était dans le monde, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Fin de citation. Je crois qu'il n'y a pas d'autre livre comme la Bible. C'est la parole de Dieu, mes amis. Dieu a annoncé les choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arrivent, nous sachions qu'il est Dieu et que ses promesses se réalisent. Dieu déclare des merveilles que nous ne pouvons pas même imaginer, et elles se produisent. Mais que les bougies et les guirlandes de l'avant ne nous trompent pas. Nous vivons bel et bien dans un monde qui rejette le Christ, et nous sommes nous aussi partie prenante dans ce grand combat entre la lumière et les ténèbres de l'ennemi qui constamment cherche à contrecarrer et à détruire l'œuvre de Dieu dans ce monde, comme dans nos vies. Maintenant, ce que j'ai à vous dire en deuxième lieu, c'est donc que c'est aussi dans nos vies de chrétiens que l'ennemi de Dieu cherche à nous atteindre pour nous détruire. Ce que dit l'apôtre Jacques dans son épître, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Ou bien ce que dit aussi Pierre dans sa première lettre, sous une forme imagée, mais ô combien explicite, hein? « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais alors soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Et Pierre ajoute, « Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. » Et puis rappelez-vous que vos frères et sœurs dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. Et Pierre précise que la vie du chrétien participe à ce grand combat de la lumière contre les ténèbres. Je le cite, « Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, qui vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. À lui la puissance pour toujours. Amen. » Oui, dès sa naissance, le mal et la mort se sont déchaînés contre Jésus. Hérode a voulu le toucher, non pour lui faire du bien, mais pour le faire disparaître. Or, Hérode n'était pas le seul à avoir un trône et du pouvoir, et celui qui siège sur le trône dans les cieux est resté souverain et le restera sur toute la terre, et il ne se laisse pas tromper par les différents Hérodes de ce monde. Vous l'avez entendu, Dieu a donc averti les mages, ces savants, astronomes venus d'Orient adorer Jésus. Il les a avertis de ne pas retourner alors auprès du roi Hérode. Et ces hommes prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Or, quand Hérode se rendit compte que les savants l'avaient trompé, ne revenant pas vers lui pour l'informer de ce qu'ils avaient vu et du lieu précis de la naissance de l'enfant, il entra dans une grande colère et donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans ses environs tous les garçons de moins de 2 ans. Une limite d'âge qui, d'après lui, correspondait aux indications que les savants lui avaient données. Dans nos vies de chrétiens aussi, à chaque fois que nous désirons approfondir notre attachement à Jésus et notre engagement comme témoin de sa lumière autour de nous, l'ennemi se déchaîne et il trouve de quoi nous faire obstruction pour nous faire tomber. Vous le savez, et je le sais, n'en soyons pas surpris et ne renonçons pas pour autant à nous accrocher à Jésus-Christ, notre seule espérance. Mais ne nous y trompons pas. L'espérance n'est pas l'optimisme. L'objet de l'espérance n'est pas une vague consolation, une utopie. Espérer est une attitude de foi, de confiance, un élan qui par ailleurs nous pousse vers l'autre, qui brûle en nous d'annoncer le mystère du salut offert à tous. Le Nouveau Testament l'atteste. C'est cet élan qui, par exemple, a motivé l'apôtre Paul lors de ses voyages missionnaires. Et lui aurait pourtant eu bien des raisons de renoncer. Lui qui a dû affronter les persécutions, les trahisons, la prison, ou tout simplement le manque d'audace, parfois des communautés chrétiennes avec lesquelles il était en correspondance. Mais les épreuves, ce combat, ne l'ont pas arrêté. Il s'est engagé avec courage, détermination et persévérance dans ce grand combat de la lumière contre les ténèbres, et il l'a fait en demeurant attaché à Jésus. Car son roc, c'est le Christ, et ce qui l'anime, c'est la résurrection. Paul sait bien que l'espérance s'enracine dans l'expérience de tout le peuple d'Israël, dans la promesse faite à ses patriarches et à ses prophètes. Il sait qu'il n'est pas le premier à découvrir la fidélité et la miséricorde sans limite de Dieu dont ses pères avant lui avaient déjà témoigné. Mais tout comme Matthieu, Paul savait aussi que certaines personnes sont hostiles au roi, ceux et celles qui aimeraient être leur propre roi, avec personne pour leur dire quoi faire à part eux-mêmes. D'ailleurs, aujourd'hui encore, n'est-ce pas ainsi que la plupart des gens essayent de vivre? Et ici, pire encore, Hérode est l'image de ceux qui sont hostiles au Christ, ennemis de Dieu, dans le monde d'aujourd'hui. Ils connaissent Dieu, ils savent qu'il existe, mais ils ne veulent pas qu'il interfère avec leur vie. Ils seront rois de leur vie. Pas question que ce soit Jésus-Christ. Aucun autre roi ne pourra s'asseoir sur le trône de leur cœur. Ils sont en quelque sorte leur propre Dieu. Ils s'adorent eux-mêmes. Ils montrent leur hostilité envers Dieu en enfreignant ses commandements et en vivant comme ils le souhaitent. Mes amis, c'est donc par grâce que Dieu s'est approché, que Dieu nous a rapprochés de lui. Et il nous a greffés sur la racine de son peuple Israël, et il a fait de nous ses enfants. Car voyez-vous, Jésus, bien sûr, n'est pas resté le petit enfant de Bethléem. Il a grandi, il a souffert, il est mort pour nos péchés, il a donné sa vie pour nous. Et il est ressuscité, victorieux, et aujourd'hui dans la gloire. Et cela a changé nos vies, écrit Paul, notamment aux chrétiens de la ville de Thessalonique, puisque maintenant, dit-il, nous sommes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et cela veut dire que nous sommes devant lui pour le servir et l'adorer, lui, notre roi. La douceur de sa grâce nous a convaincus. La main puissante de son amour est venue nous chercher. Mais alors me direz-vous comment faire maintenant pour tenir et rester du côté de la lumière, pour adorer et honorer Jésus le roi dans notre vie, dans les circonstances que nous connaissons? L'adoration n'est pas un style, elle implique toute notre personne. Alors, j'en viens au troisième et dernier volet de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Il consiste à vous dire que Dieu prend toujours soin des siens, quoi qu'il puisse arriver. Et si nous écoutons sa voix, alors lui nous donne les moyens de nous sortir des pièges du diable. Il nous parle et nous guide de multiples façons. Les mages, eux, souvenez-vous, ils ont vu l'étoile qui les a conduits à Jésus. Et après avoir adoré l'enfant, ils ont été avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Et puis plus tard, dans ce texte de Matthieu 2, il nous est dit que quand ces savants, les mages donc, furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph, et ceci dans un rêve, et lui dit « Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit, et se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Mes amis, même au cœur des pires tempêtes, le Seigneur prend soin des siens. On le voit dès le début de l'Évangile. Mais encore faut-il écouter sa voix. Et Joseph s'est levé et de nuit est parti, alors que Dieu venait de lui confier ce rêve. Encore faut-il écouter la voix du Seigneur, s'attacher à lui sincèrement, de tout notre cœur et sans tergiverser. Paul lui-même le dit aux Colossiens. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dès lors, si nous sommes confiants dans cet amour fidèle et bienveillant, lui, le Seigneur, nous donnera les moyens de sortir des pièges et des manœuvres du mal. Les mages ont pris un autre chemin. Joseph et Marie se sont réfugiés en Égypte. Et nous, le Seigneur nous conduit pareillement par son esprit pour rester du côté de la lumière, en nous attachant au Seigneur, en demeurant en lui pour qu'il nous donne la force de résister au mal qui nous menace. Et ici, voyez-vous, il ne s'agit pas de simples images, mais de dangers réels. J'en veux pour preuve le fait que, précisément, l'historien juif Flavius Joseph, qui fut un contemporain de Jésus au 1er siècle, a attesté dans ses écrits qu'Hérode le Grand a bel et bien été un roi sanguinaire, et c'est pour cela qu'il fit, entre autres, tuer quelques-uns de ses propres parents qu'il soupçonnait de comploter pour lui enlever le pouvoir. Et tout ce qui portait ombrage à son pouvoir lui faisait peur, raison pour laquelle il commandait ses assassinats. Et l'historien Flavius Joseph nous apprend même qu'il fit noyer son gendre, tua deux de ses fils et fit étrangler sa femme. Pardon du peu, hein? Oui, l'Évangile nous confirme cette attitude d'Hérode, qui a craint que ce nouveau roi des Juifs, annoncé par les mages, lui prenne sa place. Alors terrorisé et plein de haine, il fit tuer les enfants de 2 ans et moins pour éliminer le danger de son trône menacé. Il est évident qu'ici, Matthieu attire notre attention sur cette cruauté qui dit tout de l'opposition entre le roi sans armée qui est Jésus et la puissance mondaine et criminelle d'Hérode. Ainsi donc, Matthieu nous a raconté l'histoire de la naissance de Jésus, descendant du roi David et héritier légitime de son trône. Mais il nous dit que cet enfant est bien plus qu'un descendant royal, puisqu'il est né parce que Dieu lui-même est intervenu par son esprit dans la vie d'une jeune femme, d'une vierge. Jésus est le Sauveur et Marie, je cite Matthieu, enfantera un fils et lui donnera, dit l'ange, le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Lui, Jésus, à qui on donnera aussi le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous, Dieu avec nous. Jésus, le Messie, le Christ, le nouveau roi des Juifs, Sauveur et lumière du monde. Dieu se fait proche de nous. Et cela nous procure bien sûr une grande espérance, malgré le fait que tous ceux qui, comme Hérode, exercent un pouvoir dévoyé en agissant pour mettre fin au règne du Christ, hier c'était en cherchant à éliminer Jésus dès sa naissance. Aujourd'hui, c'est sans doute en écrasant les valeurs les plus précieuses et les vies nées de l'Évangile. Ce combat entre la lumière et les ténèbres continue et durera encore quelque temps. Mais les jours sont comptés, parce que Christ va bientôt revenir pour accomplir les promesses du Père. Nous le croyons. Et aujourd'hui encore, Dieu nous assure que personne ne pourra empêcher son projet de se réaliser, malgré les obstacles de tous ceux qui, souvent sans le savoir, se sont rangés aux côtés de l'ennemi de Dieu. Alors un dernier mot, mes amis, pour souligner enfin que l'évangile de Matthieu est précisément marqué par le constat de l'accomplissement des Écritures et des promesses de Dieu envers les siens. Tout est dans sa main. Tout est dans la main de celui à qui nous appartenons. Sa volonté seule s'accomplira. Il dirige le détail des circonstances. Dieu a fait signe aux mages. Ils se sont mis en route et sont repartis selon ses directives. Des circonstances aussi dans notre texte qui sont également en harmonie avec l'obéissance et la confiance de Joseph et de Marie. Dieu parle, Joseph obéit et les voies de Dieu s'accomplissent. Eh bien, il en est de même pour nous. Alors, faisons confiance au Seigneur dans nos circonstances à nous et lui bénira à la fin. Oui, il le fera parce que le Christ triomphera comme il a triomphé de ceux qui ont voulu le tuer. Lui qui a échappé aux griffes d'Hérode, lui qui a échappé aux griffes de la mort au matin de sa résurrection. De même, son règne triomphera et il donnera la victoire à tous ceux et toutes celles qui s'attachent à lui et qui se confient en lui, dans la foi, l'espérance et l'amour, que lui saura nous renouveler jour après jour. Soyez bénis. Amen.